Alors, je rencontre aujourd'hui Joseph Dadia, qui est un ancien élève et ancien instituteur des écoles de l'Alliance israélite universelle. Et nous reprenons aujourd'hui ses interviews dans le cadre des 150 ans de ces écoles assez extraordinaires qui ont été fondées, donc tout cet organisme a été fondé en 1860, je le rappelle. Donc, Monsieur Joseph Dadia, je voudrais tout d'abord vous présenter. Vous êtes un juriste de renom, vous avez été, puisque vous êtes à la retraite, et vous avez fondé à Paris l'Association des Juifs de Marrakech, avec une publication remarquée et remarquable, puisque vous avez créé le Trait d'Union et vous avez en particulier sorti deux numéros, un hommage à Alfred Goldenberg et un hommage à René Camus et sa femme, Berthe Camus, tous les trois qui étaient directeurs d'école à l'Alliance de Marrakech. Donc, mes questions vont porter sur à la fois ce que vous a apporté l'Alliance comme élève, puis dans une deuxième partie, ce que vous a apporté l'Alliance comme instituteur. Donc, qu'a apporté l'Alliance à un enfant comme vous, Monsieur Joseph Dadia?
Alors moi, je pense beaucoup de bien de l'Alliance, puisque je l'écris souvent dans les textes que je vous envoie. Et bien entendu, la réponse peut s'arrêter là. Je pense que derrière cette question, il y a autre chose. Alors cette autre chose, je peux le dire. Si je l'ai bien compris, c'est que moi, l'Alliance israélite universelle est arrivée à Marrakech en décembre 1900 et l'école a ouvert en janvier 1901. Et bien entendu, il y a beaucoup de générations qui sont passées par les écoles de l'Alliance et moi, curieusement, je ne voulais pas aller à l'école. Je voulais juste rester dans la petite école hébraïque qu'on appelait Sla, puisque j'aimais bien l'hébreu, j'étais un garçon religieux, pratiquant,
Et
et
quelle
un
langue est-ce que vous
jour, un
parliez, Monsieur
monsieur,
Dadia?
allô?
Oui,
Alors, je peux
je voulais vous
continuer?
demander quelle langue parliez-vous à la maison?
Pardon?
Quelle langue parliez-vous à la maison?
Alors, à la maison, on parlait que l'arabe. Je n'avais personne dans ma famille qui avait été à l'école, y compris mes parents. Et je me souviens les premiers jours que j'allais à l'école, la maîtresse nous dit debout, assis. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Quand je revenais à la maison, on avait une voisine qui avait son certificat d'études, et c'est elle qui m'expliquait, ce qui fait que les premières années, en particulier la première année, je ne comprenais rien au français, car j'étais très doué en hébreu, pas en français. Il a fallu attendre vraiment que je sois en cours moyen, première année, pour que je commence à mieux comprendre le français, à le maîtriser et même avoir été un bon élève dans les matières du français.
Oui. Est-ce que vos difficultés, c'était essentiellement sur la langue ou bien y avait-il encore un problème entre la religion et la laïcité des écoles? Y avait-il un autre problème avec la culture qu'on vous enseignait?
Non, je pense que je ne me posais pas ces questions-là. J'étais un élève studieux, j'allais régulièrement à l'école et je ne me posais aucune question. J'ai essayé d'apprendre, d'écouter ce que disait la maîtresse. Elle parlait tout le temps en français. Et évidemment, je ne comprenais pas tout, comme la plupart de mes camarades, d'ailleurs en classe. Mais N'empêche que quand on avait fait une espèce d'examen, je me souviens, c'était le cours élémentaire 1 ou le cours élémentaire 2e année, et j'avais été classé premier, alors que je venais d'une famille qui ne parlait pas français. Et il y a eu la sœur de l'un de mes camarades de l'époque est venue à l'école pour vérifier les notes que j'ai obtenues. C'est-à-dire que vraiment, on ne comprenait pas comment Joseph Dadia, qui ne parlait pas français, est arrivé à être premier. Donc, parce que j'insiste beaucoup que mes études hébraïques ont été à la base de toute l'instruction que j'ai eue à l'Alliance. Ce qui fait que par la suite, tout cela est devenu très facile pour moi et ça ne posait aucun problème. Et j'étais toujours bien classé, y compris au cours complémentaire, où je suis aussi sorti premier en anglais dès la première année, alors que je n'ai jamais fait l'anglais auparavant. Mais tout cela grâce à mes études hébraïques qui sont à la base de l'instruction que j'ai eue à l'Alliance sur le plan du français.
Oui, et par rapport à vos parents, comment vos parents acceptaient que vous entriez comme ça dans une culture et dans une langue étrangère?
Oh, mais je pense que ce sont des questions, à mon avis, d'aujourd'hui. Mes parents étaient heureux de voir que je vais à l'école, d'apprendre à l'école. Ils ne posaient aucune question, moi non plus. J'allais de la façon la plus naturelle à l'école, comme je continuais d'aller au cours du soir à la petite école hébraïque. On ne se posait pas ces questions-là. Il n'y avait pas de problème de culture, ni de mentalité, ni rien du tout. Tout le monde était heureux de voir ses enfants aller à l'école et les gens même se bagarraient pour inscrire leurs enfants, parce qu'à une époque, il n'y avait pas de place. Les gens faisaient la queue à chaque rentrée scolaire et on n'acceptait pas tout le monde. Mais on ne se posait pas ces questions de culture ou d'acculturation. Surtout, et un point très important et qui concerne un peu votre papa, c'est qu'il a eu la sagesse d'établir à l'école Colcos, où j'ai commencé ma scolarité, moitié de la journée hébreu et moitié de la journée français. Donc il n'y avait pas de coupure entre ce que nous avions appris de la petite école juive, la SLA et l'école. Et tout le monde était heureux, bien entendu.
Oui. Alors, puisque vous étiez un élève quand même remarquable, vous avez souligné vous-même que vous étiez le premier. Vous avez donc continué jusqu'au baccalauréat et lorsque vous êtes revenu à Marrakech, je crois que c'est mon père et mon oncle qui vous ont proposé donc d'aller comme instituteur à Akka.
Alors, je dois dire quelque chose de très important, c'est que j'ai eu qu'un seul directeur dans ma scolarité, c'est Alfred Goldenberg. Je n'en ai pas eu d'autres. Donc, de la rue Colcos, quand il est parti à Arstelmach, où il dirigeait l'école primaire et l'école complémentaire, donc je ne sais pas comment on a dirigé la plupart des élèves qui étaient avec moi en classe vers l'école Jacques Bigard, dirigée par votre oncle, et moi et un autre, on a été dirigés à Arstelmach. Donc là, j'ai poursuivi le cours moyen de deuxième année, j'ai réussi mon concours d'entrée en sixième et j'ai arrêté en quatrième cours complémentaire parce que on était en 1956 et là je suis parti en Angleterre où j'ai poursuivi mes études secondaires. Voilà, alors en revenant à Marrakech, un jour un copain, une semaine ou deux semaines après mon arrivée d'Angleterre, m'a amené pour dire bonjour à M. Goldenberg. Et c'est là que l'entretien s'est prolongé pendant plus d'une heure. Et comme il a vu que je faisais rien à Marrakech, que j'avais quand même des diplômes, il m'a proposé d'aller enseigner à l'école juive d'Akka dans le sud marocain, parce qu'il y avait un problème dans cette école, c'est que les directeurs qui étaient partis avant moi ne restaient pas beaucoup de temps. Et donc ce qui fait que l'école qui existait n'avait plus d'instituteur pour la diriger. Je rappelle au passage que cette école a été créée en 1955 et que moi je suis arrivé à Accra en février 1960. Voilà comment les choses se sont passées et je dois remercier d'ailleurs votre papa puisque la situation de mes parents n'était pas bonne à cette époque-là et donc pour moi il m'a donné l'occasion de gagner un peu ma vie et de subvenir aux besoins de mes parents.
Oui, alors l'école de Accra, vous avez souligné qu'elle avait eu un problème, mais il faut quand même dire que cette école était l'école qui était le plus au sud et la plus isolée dans le sud marocain. Alors, est-ce
ça,
que vous pouvez nous dire quelles ont été
vos difficultés, au moins deux jours,
vos émerveillements?
Il a fait au moins deux jours de car arrivé à Accra de Marrakech. Je prenais
alors, vous aviez quel âge?
En fin de journée à Marrakech, donc je passais toute la nuit dans le car qui arrivait à Tizni, et de là-bas, j'attendais un autre car, et on arrivait dans la soirée au souk, c'est-à-dire au centre commercial de cette oasis, et bien entendu, le car s'arrêtait là, et donc je poursuivais mon chemin. À Dodane, en quelque sorte, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo, donc quelqu'un m'attendait toujours avec au moins deux ânes, l'un pour moi, l'autre pour mes bagages. Et donc, je suis arrivé à Accra. L'éloignement ne m'a pas terrorisé. Au contraire, pour moi, c'était une mission sacrée d'aller aider mes frères juifs isolés là-bas au fin fond du Maroc, à la limite de l'Ouadra. Et je pense que votre papa a fait appel à moi parce que j'avais ce côté religieux et ce côté, si vous voulez, de connaissance approfondie des livres juifs, c'est-à-dire la Torah, le Talmud. Et il a pensé que je pouvais être quelqu'un d'adéquat pour cette communauté, puisque je pratiquais la religion, je priais, et je pouvais donc avoir une langue commune avec cette communauté.
Oui, mais il faut aussi souligner que vous étiez un élève excellent, et donc vous alliez à la fois, vous étiez un pont entre l'Orient et le Maroc un peu oriental, et l'Occident que vous apportiez par vos diplômes.
C'est-à-dire, au fond, moi, ayant vécu en Angleterre, j'ai acquis la mentalité occidentale, puisque là, en Angleterre, j'ai découvert qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que la liberté de penser, la liberté de circulation. Donc j'étais à cheval, en quelque sorte, entre mon enfance marocaine et mon adolescence britannique. Mais tout ça, c'était accessoire pour moi. L'essentiel pour moi, c'était de donner une instruction aux élèves, c'était des filles et des garçons, une instruction française, il faut le dire, parce que c'était l'objet de ma mission. Bien entendu, il y avait un maître d'hébreu, il y avait un maître d'arabe, ma manifestation juive, c'était à la synagogue ou c'était lors de mes rencontres avec des personnalités juives de la communauté. Mais en classe, je ne disais rien de ma culture hébraïque. J'étais un simple instituteur français qui enseignait le français et le reste.
Comment était le contact entre cette population qui était vraiment complètement éloigné de cette culture, de cette langue, et puis vous?
Eh bien, le contact a été excellent depuis le début, puisque je portais une kippa sur la tête, ce qui rassurait un petit peu cette communauté qui était hautement traditionnelle, et surtout, les gens étaient émerveillés de voir que je discutais avec le rabbin qui était venu de Casablanca pour diriger la communauté sur le plan culturel. Il y avait un autre rabbin dans la communauté, et ils étaient en quelque sorte, ils ne comprenaient pas d'où vient ce phénomène-là, qui maîtrise à la fois le côté culture français et le culture hébraïque. Et évidemment, tout cela était de nature à les rassurer sur tous les plans.
Et vous n'aviez pas de difficulté à avoir des élèves au début? Comment était le contact avec les enfants, les familles?
Non, aucune difficulté, puisque j'avais reçu une petite formation très accélérée sur 3 semaines à l'école Jacques Bigard sous la direction de M. Camille. Donc, tout de suite, j'ai assimilé un petit peu la pédagogie. J'ai acheté aussi un très gros livre de pédagogie que j'étudiais, et avec l'encouragement de M. Arus, il faut quand même parler de M. Arus, qui était à cette époque-là le délégué adjoint de l'Alliance au Maroc, qu'on appelait l'Itihad à cette époque-là. Il faut aussi rappeler que c'est bien M. Arus qui a été à l'origine de la construction de cette école et de l'ouverture de cette école. Donc, je ne vois, il n'y avait aucun problème pour moi, il n'y avait aucun problème, ni personnel, ni familial. J'étais heureux d'apporter des choses valables à ces enfants éloignés, et évidemment, j'aimais bien mes enfants, mes élèves m'aimaient bien, et je m'occupais aussi de leur santé, de leur bien-être, puisqu'ils mangeaient bien à la cantine. De nourriture leur donner. Je ne savais même pas comment écouler toute la nourriture, il fallait tout leur donner, et ils mangeaient bien, ils étaient contents. Il y a aussi la distribution des vêtements, mais je n'ai pas eu d'aucun élève. Tout le monde était très, très gentil en classe avec moi. Tout le monde me respectait, puisque je les respectais moi-même. Et je jouais avec eux pendant la récréation. Mais je sentais quand même qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de respect pour moi. Et cela me gênait, parce que je voulais quand même être un petit peu leur copain, puisqu'il y avait des élèves qui avaient à peu près mon âge, ou pas loin. Alors, c'était comme ça, il fallait respecter un petit peu leur comportement et leur attitude.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, parce que nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien,
déjà,
la suite après vous? Donc vous êtes resté combien d'années à diriger cette école?
Alors, je suis parti, je suis arrivé en février 1960, donc, il faut rappeler aussi que là-bas, les vacances scolaires commençaient au mois de mai, parce qu'il faisait excessivement chaud. Donc, j'ai repris, lors de la rentrée scolaire 1960-1961, et quand j'étais absent quand même plus de 3 années en Angleterre, à peine arrivé, me voilà éloigné de mes parents. Donc j'ai demandé à M. Arus s'il veut bien accepter de me muter à Marrakech. Et il l'a fait de la façon la plus naturelle et spontanée, sans difficulté. Alors que quand on a quelqu'un qui tient bien la route dans un bled, on essaie de le garder le maximum possible. Donc je pense que j'ai été aidé aussi par M. Camille, par M. Goldenberg, puisque j'avais d'excellents rapports avec eux. je correspondais avec eux, et je les tenais au courant à chaque visite à Marrakech lors des vacances scolaires de ce que je faisais. Donc j'ai obtenu sans aucune difficulté ma mutation à Marrakech, avec Jacques Bigard, où j'ai jamais mis les pieds comme élève, et me voilà, M. Camille me donne les cours moyens de deuxième année, alors qu'il y avait des instituteurs qui avaient plus de 20 ans et non plus d'ancienneté, qui dirigeaient des petites classes. J'étais un petit peu gêné aussi de cette grande confiance que mes directeurs d'école me faisaient. Et j'essayais le mieux, de mon mieux, de ne pas les décevoir. Et je pense qu'ils n'ont pas été déçus, puisqu'ils sont devenus par la suite. Ils sont venus par la suite des amis à moi, à Paris, à l'occasion des rencontres, vous avez rappelé, dans le cadre de l'association des Juifs de Marrakech. Voilà, et si
autre chose, l'école de l'ACA, donc, c'est votre successeur qui l'a dirigé, mais très vite, il s'est aperçu que cette population était quelque peu en danger parce que très isolée, et c'est lui donc qui a décidé de faire, d'organiser pour toute la population juive de Haka le départ vers Israël. C'est bien.
C'est vrai, Simoison a eu encore plus de courage que moi, puisqu'il n'avait que 17 ans. Il venait donc de sortir de l'école hébraïque de Casablanca. Et bon, les Juifs étaient en danger, mais je peux dire, nous étions en danger à une époque tous dans n'importe quel coin du Maroc. La question ne se pose pas spécialement pour Haka, mais je dois souligner une chose très importante, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps, c'est que le Melah, il y avait deux implantations juives à Haka. Il y avait donc Agadir, où il y avait le maximum de familles qui habitaient là, il y avait Taourir, ou quelques familles périclitées. Mais le Melah était toujours ouvert, il n'était pas fermé par une porte, il était ouvert jour et nuit, il n'y avait rien qui entourait les maisons du Melah, il n'y avait pas de murailles, il n'y avait rien. Ils étaient en bon terme avec la population locale, mais évidemment, il y a toujours un ressentiment, quelques juifs quelque part, mais ce n'est pas spécifique à Haka ou ailleurs. Hein. Moi, j'étais très très bien accueilli par la population locale, qui m'estimait beaucoup, qui me saluait, j'étais heureux partout, j'allais librement dans n'importe quel oasis d'Haka et de la région, j'étais toujours bien reçu. Mon maître d'arabe, c'était quelqu'un du coin, j'étais reçu dans sa famille, je connaissais bien sa maman, son épouse, ses sœurs, et il n'y avait pas vraiment de problème, sauf le problème général, certains un peu fanatisés par l'islam ou quelque chose comme ça. Les juifs circulaient librement, ils avaient des propriétés dans les oasis, ils avaient un commerce très important à Haka, ils circulaient même à dos de mulet, c'est pour dire de la liberté qu'ils avaient.
C'est simplement qu'ils étaient quand même très isolés, vous avez signalé qu'il fallait 2 jours pour arriver à Marrakech.
Oui, bah, pour être isolé, c'est maintenant que j'apprends que j'étais isolé, puisque je suis en train d'écrire, comme vous le savez, suite à ce que j'ai raconté sur ma présence juive et mon expérience à Haka, je suis en train d'ajouter des annexes où j'ai découvert que des Mekoubalim sont venus de Taroudante terminer ou écrire leur livre à Haka et Haka, c'était vraiment une plateforme commerciale à une époque, et toutes les caravanes qui allaient à Tombouctou, passait par Aka, il y avait un grand commerce. C'est une longue histoire. Et c'est ça que je regrette, c'est que je ne savais pas dans quelle communauté importante juive je vivais et qu'elle était isolée, bien entendu, par la distance. Mais je trouve que sur le plan de l'histoire, il n'était pas du tout isolé. Et il y a toute une histoire à raconter entre les juifs de Sousse et les juifs de Drac, puisque Aka était vraiment à l'intersection de ces deux grandes vallées où il y avait une présence juive la plus ancienne au Maroc. Et là, on parle même de royaume juif dans le Drac. C'est dire que cette région, sur le plan historique, c'est quelque chose qui me fascine aujourd'hui et je regrette de ne pas l'avoir su à l'époque.
Je vous remercie, monsieur Dadia, de ce très chaleureux entretien que vous nous avez accordé aujourd'hui pour célébrer l'Alliance israélite universelle. Merci beaucoup et à bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.